France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Quand les Américains et les Russes parlent de l'Ukraine sans les Ukrainiens, c'était aujourd'hui à Riyad lors du sommet entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov. Aucun résultat concret pour le moment, mais Volodymyr Zelensky dénonce déjà cette rencontre dans le dos de son peuple. Page spéciale dans ce journal avec Nathanaël Charbonnier et Anne Andlauer. Nous nous intéresserons également au nouvel homme fort de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Marco Rubio, qui fut d'abord un opposant farouche de Donald Trump. Portrait signé Valérie Cantier. François Bayrou, à nouveau interpellé à l'Assemblée sur les soupçons de violence au collège-lycée Bétarame près de Pau. « Je ne suis jamais intervenu dans cette affaire », a répondu le Premier ministre. Les députés LR ne veulent pas de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Les élus Les Républicains voteront contre le choix d'Emmanuel Macron en commission des lois, alors qu'il participe pourtant au gouvernement. Washington se félicite d'un important pas en avant. Les États-Unis et la Russie ont repris contact au plus haut niveau aujourd'hui à Riyad, 3 ans après le début de l'invasion de l'Ukraine. Face à face, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et son homologue russe Sergueï Lavrov, avec un objectif commun, mettre un terme au conflit ukrainien. Les Américains visent une fin juste et durable à la guerre. Les Russes, eux, ne veulent pas entendre parler de troupes occidentales en Ukraine pour garantir un éventuel cessez-le-feu. En réalité, Nathanaël Charbonnier, les deux parties ne tirent pas les mêmes conclusions de leur sommet en Arabie Saoudite.
Alors, rencontre sérieuse côté russe, premier pas important pour les Américains. La première chose à retenir, c'est que l'affiche a tenu ses promesses. Ce sont maintenant plein de réunions qui vont se dérouler entre négociateurs et conseillers des deux camps. Toujours côté ambiance, les Américains semblent un peu plus satisfaits de l'entrevue que les Russes, mais là encore, on est dans l'affichage. Il s'agissait pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio de montrer que le président Donald Trump est capable de ramener la paix dans le monde, tandis que pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il s'agissait de faire passer l'idée que la négociation risque d'être difficile et dans les deux cas, mission accomplie. Maintenant sur le fond. Il y a deux aspects. Le premier concerne la relation russo-américaine avec la mise en place d'un mécanisme de consultation pour régler les contentieux, avenir des avancées en matière de relations diplomatiques, mais surtout en matière d'échanges économiques, l'objectif pour les Russes étant d'aller vers une levée des sanctions américaines. Le second aspect concerne lui spécifiquement la guerre en Ukraine, et là encore, affichage réussi, puisqu'Américains et Russes vont nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France. Un grand absent donc à ce sommet de Riyad de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien était à Ankara aujourd'hui où il a rencontré son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. L'occasion pour lui de dénoncer des négociations sur l'Ukraine et sans l'Ukraine. Volodymyr Zelensky veut associer l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie à ses pourparlers. Le président turc s'est d'ailleurs proposé d'accueillir les négociateurs. On retrouve à Ankara, Anne Andlauer.
L'Ukraine veut la fin de la guerre, reconnaît que la diplomatie s'accélère ces dernières semaines, mais refuse que des décisions soient prises dans son dos. C'est ce qu'a dit à Ankara le président Volodymyr Zelensky au sujet des négociations de Riyad.
Chaque pays peut discuter avec d'autres, mais vous ne pouvez pas prendre de décision sans l'Ukraine sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous n'avons pas été invités à cette réunion, la réunion russo-américaine en Arabie Saoudite. Cela a été une surprise pour nous, comme pour beaucoup d'autres, je pense. Nous l'avons appris dans les médias. Je ne sais pas qui va rester là-bas, qui va partir, qui va aller où. Et pour être honnête, je ne m'y intéresse pas. Nous sommes absolument honnêtes et ouverts, et je ne veux pas donner une image erronée. C'est pourquoi je n'irai pas en Arabie Saoudite.
Volodymyr Zelensky n'annule pas son voyage à Riyad, il annonce son report au 10 mars. Quant au président turc Recep Tayyip Erdogan, il a estimé que son pays serait l'hôte idéal pour accueillir des pourparlers sur l'Ukraine.
Anne Andlauer, correspondante de RFI en Turquie. Arrêtons-nous à présent sur Marco Rubio, l'homme qui porte porte la nouvelle diplomatie américaine voulue par Donald Trump, ce spectaculaire rapprochement avec la Russie. Le nouveau secrétaire d'État est un homme politique chevronné et respecté, y compris par ses adversaires démocrates. Bonsoir Valérie Cantier.
Bonsoir.
Et pourtant, Marco Rubio a d'abord été un opposant à Donald Trump.
Oui, c'était même l'un des plus grands opposants à Donald Trump au sein du Parti républicain. Ça, c'était à l'époque. Il s'était présenté à la primaire du parti contre Trump en 2016. Trump qui moquait sa petite taille lors des débats avec condescendance. Mais aujourd'hui, Marco Rubio, 53 ans, est l'un des fidèles alliés du président américain, l'un des rares dans l'équipe gouvernementale à avoir une épaisseur politique, à tel point qu'il a été confirmé à l'unanimité par le Sénat au poste de secrétaire d'État en janvier dernier. Depuis 2016 donc, il a su opérer un rapprochement tout en douceur avec son adversaire d'hier et a même failli devenir vice-président. Fils d'immigrés cubains, Marco Rubio dit vouloir faire passer l'Amérique d'abord, le fameux America First de Donald Trump, plutôt que donner la priorité à un ordre mondial avec des normes internationales qui étaient les piliers de la politique de Joe Biden. Pour Marco Rubio, la Chine est l'adversaire le plus puissant et le plus dangereux que les États-Unis aient eu à affronter dans leur histoire. Et devant le Sénat, il a rappelé que ce qu'a fait la Russie en Ukraine aurait été impossible sans l'aide de la Chine.
Nous avons accueilli le Parti communiste chinois dans l'ordre mondial. Il a profité de tous ses bénéfices, mais a ignoré tous ses devoirs et responsabilités.
Ce sénateur de Floride, lancé par le mouvement ultra-conservateur du Tea Party, soutien indéfectible d'Israël et farouche opposant à l'Iran et à son programme nucléaire, devra s'atteler au programme annoncé par Donald Trump dans la campagne, à savoir contrôler le canal de Panama, peut-être tenter de faire main basse sur le Groenland, voire le Canada. En attendant, il s'est retrouvé aujourd'hui dans un face-à-face plutôt tendu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vous en avez parlé, car sur la guerre en Ukraine, Marco Rubio est le visage de, je cite, la diplomatie audacieuse des États-Unis.
Valérie Cantier, merci. Votre portrait de Marco Rubio à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France dans votre série intitulée « Dans l'ombre de Trump ». Marco Rubio, grand ami d'Israël qui était encore à Jérusalem dimanche pour rencontrer Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien avait alors menacé d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza si le Hamas ne libérait pas les 70 otages qu'il détient encore. La milice islamiste va libérer 6 de ses otages samedi. Et d'ici là, jeudi, ce sont les corps de 4 autres otages qui vont être restitués à l'État hébreu. Détail terrible, le Hamas évoque parmi les victimes la famille Bibas, la mère et 2 enfants en bas âge, Ariel et Kfir. À ce stade, Israël ne confirme pas ses identités. Michel Paul nous appelle de Jérusalem.
La famille Bibas affirme être au courant de l'annonce du Hamas que les corps de Shiri et de ses enfants, Kfir et Ariel, seront restitués ce jeudi. Le voyage pour nous n'est pas terminé tant que nous n'obtenons pas confirmation officielle, affirme la famille. Beaucoup d'émotions en perspective, les Bibas sont devenus ici un symbole de la tragédie qui se poursuit depuis 16 mois et le sort du franco-israélien Wadi Halomi sera lui aussi finalement connu. Beaucoup de prudence en tout cas ce soir. En Israël, officiellement à ce stade, on ne donne pas l'identité des corps qui seront restitués. On indique seulement que c'est dans la matinée de jeudi que l'organisation islamiste va transmettre les noms. Les dépouilles des otages seront dès réception transférées à l'Institut médico-légal israélien pour identification. Et ce n'est que lorsque les familles seront officiellement informées que les noms seront rendus publics. Le même scénario se déroulera la semaine suivante avec les corps de 4 autres otages. Et ce samedi, ce sont 6 Israéliens captifs depuis le 7 octobre 2023 à Gaza qui seront échangés. En tout donc, ce sont les 33 otages prévus pour la phase 1 de l'accord signé avec le Hamas qui seront restitué.
Michel Paul, correspondant en Israël. L'horreur à l'écran au deuxième jour du procès de Mehdi Nemouche, jugé avec 4 autres accusés pour la détention d'otages en Syrie en 2013. La cour d'assises spéciale de Paris a commencé à visionner les images de vidéosurveillance de l'hôpital pour enfants d'Alep. C'est là que l'État islamique détenait les 4 journalistes français, Nicolas Hénin, Didier François, Édouard Elias et Pierre Elias, ainsi qu'une 15aine d'autres otages occidentaux. Plus de 2000 heures d'enregistrement passé au crible par les enquêteurs français qui parlent eux-mêmes d'images terribles. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Vous suivez ce procès pour France Culture. Une partie de ces images a donc été projetée à l'audience, Florence.
55 000 fichiers vidéo, 2 860 heures d'enregistrement, un travail de moine copiste, résume un premier enquêteur, pour dépeindre le travail de ses collègues qui ont analysé ces images issues des 4 caméras installées à l'intérieur de l'hôpital d'Alep, l'un des premiers lieux de détention des otages. Ils vont y passer plus de 2 mois et demi. Plan fixe et muet, mais des images terribles, prévient le témoin, des tortures institutionnalisées, planifiées, des violences sadiques commises avec délectation, passage à tabac, prisonniers suspendus à des crochets, simulacre d'exécution, plusieurs décapitations suivront plus tard, mises en scène et diffusées sur Internet par le groupe État islamique. Silence total, pesant dans la salle d'audience quand les premières images s'affichent sur l'écran. Une longue file d'otages progresse, les yeux bandés dans un couloir, alignés contre le mur par des geôliers cagoulés. L'un d'eux balance un énorme bâton dans sa main droite. Les coups pleuvent, des hommes gisent sur le sol. Là, explique un autre enquêteur, on peut aussi voir un enfant qui évolue avec les geôliers. Et ces violences sinistres, ajoute-t-il, ce ne sont pas les pires de celles subies par les otages. Il n'y avait pas en effet de caméras à l'intérieur des cellules. Des vidéos suffisamment détaillées pour permettre l'identification de quelqu'un, interroge le président. Le premier témoin acquiesce. Oui, cela a été un travail long et fastidieux, mais la tenue de Mehdine Mouche qui porte un gilet tactique, on ne peut pas la rater. Dès l'ouverture de l'audience hier, le principal accusé a nié avoir été le geôlier des 4 journalistes qui viendront demain témoigner des sévices qu'ils ont subis.
Florence Turme, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Le président de la Cour a en revanche décidé de ne pas diffuser la vidéo de décapitation de l'un des otages occidentaux de l'État islamique, l'Américain James Foley. Le magistrat estime qu'il n'y a pas de lien direct avec les faits dont la Cour est saisie aujourd'hui. Ce procès doit se poursuivre jusqu'au 21 mars. François Bayrou n'en a pas fini avec l'affaire Betaram, ce collège lycée catholique des Pyrénées-Atlantiques, théâtre de violences sexuelles selon de multiples accusations, un établissement où il avait scolarisé ses enfants. Le Premier ministre assure n'être jamais intervenu, ni de près ni de loin dans cette affaire. Il l'a dit cet après-midi lors de la séance des questions au gouvernement. François Bayrou, qui répondait à la députée socialiste Colline Capdevielle, qui l'accuse de mentir, mensonge d'État, a même renchéri l'élu insoumis Paul Vannier. Estelle Caméret, bonsoir.
Bonsoir.
Pour sa défense, François Bayrou attaque le gouvernement de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste qui aurait été au courant des faits alors qu'il était à Matignon en 1998.
Et oui, le Premier ministre assure que selon la chancellerie aurait été informée à 4 reprises par le procureur de la République.
Il l'a fait téléphoniquement le jour de l'incarcération. Et il l'a fait ensuite à 3 reprises par écrit en signalant la gravité des faits. Quel était le gouvernement à cette époque? C'est le gouvernement socialiste de 97 à 2002. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Et je ne peux pas imaginer que le ministre de la Justice n'ait pas tenu compte d'un signalement aussi grave par le procureur général.
Mais la députée socialiste Colline Capdevielle rappelle que le gendarme en charge du dossier sur le père Caricard, ex-directeur de Betaram et accusé de viol en 1998, assure que François Bayrou était bien au courant. Le juge qui enquête sur le viol le dit aussi. Ce juge d'instruction, Christian Mirande, serait le voisin du Premier ministre depuis 40 ans.
Un magistrat n'a pas le droit de communiquer le moindre élément du dossier dont il a la charge à quelques personnes extérieures au dossier que ce soit. Et donc, on a pu parler de l'ambiance, on a pu parler de l'établissement, jamais du dossier.
Une défense bien faible pour le député de la France Insoumise, Paul Vannier, qui accuse le Premier ministre de changer sa version des faits pour la 3e fois en une semaine.
Vos mensonges, relayés par une partie du gouvernement, ont transformé l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays en un mensonge d'État. En mentant à la représentation nationale, aux victimes et aux Français, vous vous êtes disqualifié, démissionné.
Les écologistes ont demandé une commission d'enquête sur l'affaire Betaram et devraient avoir leur réponse demain.
Estelle Caméraire, merci. L'actualité politique ce soir, c'est aussi cette polémique sur Richard Ferrand. L'ancien président de l'Assemblée deviendra-t-il le prochain président du Conseil constitutionnel? En tout cas, les députés LR voteront contre cette proposition d'Emmanuel Macron. Demain, les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat doivent se prononcer sur ce choix. Et si plus de 3 participants sur 5 s'y opposent, la candidature de Richard Ferrand, fidèle de la première heure du président de la République, sera rejetée. Bonsoir Rosalie. Lafarge.
Bonsoir.
Et c'est visiblement ce que souhaite une partie des LR.
Les sénateurs, les Républicains n'ont pas arrêté de décision commune. Les députés, eux, si. Et Laurent Wauquiez l'assure, son groupe à l'Assemblée est unanime. Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, c'est non.
C'est une personnalité qui pose un problème d'éthique, qui pose un problème d'impartialité et qui pose un problème parce qu'il n'a pas d'expertise juridique. Le risque, c'est qu'avec Richard Ferrand se reproduit ce qu'on a connu avec Laurent Fabius. C'est-à-dire tout simplement un conseil constitutionnel qui ne juge plus en droit, mais avec une dérive idéologique.
Des critiques qui agacent dans le bloc central. On y voit la conséquence de la bataille pour la présidence du parti à droite. C'est un règlement de compte avec Retailleau, considère un influent sénateur, pas contredit par le patron des députés MoDem, Marc Fesneau.
Je sens qu'il y a ce risque-là qui est en train de naître et dans une bataille. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre de ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement auraient la parole moins libre que ceux qui sont à l'extérieur, à la vérité. Je vais vous dire, j'invite tout le monde à monter son niveau de jeu, là. Parce que moi, mon risque, c'est pas de savoir si socle, pas socle, à l'intérieur ou pas du gouvernement, primaire, pas primaire, qui c'est qui gagne chez les Républicains, c'est qui c'est qui gagne chez les démocrates au sens général du terme, vous voyez. C'est à la fin de la bataille, ça va être ça bientôt.
Dans un vote à bulletin secret pour lequel chaque voix va compter, la position des sénateurs LR peut être décisive. Demain, ça va être juste, reconnaît un pilier du groupe macroniste, conscient qu'il y a là une occasion inespérée pour quiconque a envie d'infliger un revers au président. Or, ils sont nombreux sur les bancs du Parlement.
Explication signée Rosalie Lafarge. J'ai refusé de plaider coupable. Les mots du maire de Béziers, Robert Ménard, à la sortie du bureau du procureur de Montpellier, où il était convoqué ce matin. Robert Ménard qui encourt 5 ans de prison, une amende de 75 000 euros et une peine d'inéligibilité. Et cela pour avoir refusé de célébrer un mariage en 2023 entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. Et ce matin, l'élu divers droite assume toujours sa décision. Les précisions de Salah Hamdaoui.
Un refus illégal mais légitime. Jusque-là, Robert Ménard reconnaissait avoir enfreint la loi en ne mariant pas le couple. Mais depuis ce matin, il se dit coupable de rien, sans préciser la peine qui lui a été proposée. On ignore également, pour l'instant, la date de son procès devant le tribunal correctionnel. Le maire de Béziers a répété que marier un homme sous OQTF n'aurait eu aucun sens, alors que le parquet de Béziers, après enquête, avait écarté l'hypothèse du mariage blanc. Si une loi est mauvaise, eh bien il faut la changer, se défend l'élu. Les larmes aux yeux, Eva, la fiancée, parle de souffrance depuis 20 mois, depuis qu'elle a été séparée de Mustapha, puisqu'il a été expulsé. Elle est toujours en contact avec lui et d'ailleurs, elle doit aller le voir ce samedi en Algérie.
Salah Hamdaoui, ici héros. La gaieté lyrique va-t-elle retrouver une activité normale dans les prochaines semaines? Une chose est sûre, le tribunal administratif de Paris a ordonné la semaine dernière l'évacuation d'ici un mois du lieu culturel parisien. Environ 200 migrants affirmant être mineurs isolés occupent le site depuis le 10 décembre. Ils ont depuis été rejoints par environ 200 autres migrants, dont des femmes et des enfants. Pour justifier l'ordre d'évacuation, le juge des référés évoque plusieurs risques, incendies, sanitaires, avec la promiscuité, mais aussi troubles à l'ordre public. Dernier argument de la justice, l'occupation a contraint la gaieté lyrique à annuler ou reporter toutes ses manifestations. Le reportage de Mélanie Kuzelevitch.
La gaieté lyrique est actuellement fermée, peut-on lire sur un panneau à l'entrée du lieu culturel. À l'intérieur, des centaines de migrants originaires d'Afrique, des jeunes, mais aussi depuis peu, des familles se protègent du froid, vivent et dorment à l'étage. Depuis qu'ils ont investi le lieu, les débats, les ateliers, les festivals et les concerts sont annulés ou reportés. Abdoulaye, délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville, à l'origine de cette action.
Nous sommes désolés des dommages qui est en train de subir la gaieté lyrique, mais ce n'est nullement pas de notre faute, parce que s'il y avait eu une solution d'hébergement dès notre arrivée ici, on ne serait pas encore là.
La gaieté lyrique refuse de les mettre à la rue, mais la situation est intenable, à la fois pour les jeunes, mais aussi pour le lieu culturel, explique la directrice Juliette Donadieu.
Chaque jour supplémentaire, ça aggrave en fait l'hémorragie financière dans laquelle on est. C'est des centaines de milliers d'euros, et nous on rappelle que si un soutien financier n'est pas donné, n'est pas confirmé par la ville de Paris, la gaieté lyrique et le projet de la fabrique de l'époque risque de disparaître.
La ville de Paris, propriétaire de la Gaîté Lyrique, dit suivre attentivement la situation, mais veut attendre avant de se prononcer sur un éventuel soutien. Karine Roland, adjointe à la maire de Paris en charge de la culture.
Encore faut-il que cette situation tout à fait exceptionnelle soit terminée pour voir ce qu'il en est, de ce que cela a coûté, de ce que cela a généré comme perte par rapport à ce qui était attendu, pour avoir une discussion globale avec la fabrique de l'époque qui gère la Gaîté Lyrique.
La ville de Paris appelle de nouveau la préfecture à prendre ses responsabilités et à trouver une solution d'hébergement pérenne pour ces migrants. Contactée, la préfecture d'Île-de-France n'a pas répondu à nos sollicitations.
Stéphane Plaza, condamné à 12 mois de prison avec sursis, jugement du tribunal de Paris cet après-midi. L'animateur et agent immobilier étaient poursuivis pour violence sur deux anciennes compagnes. La condamnation ne concerne que l'une d'entre elles. Stéphane Plaza va faire appel, annonce ce soir ses avocats. Un mot du temps demain, un ciel gris et parfois pluvieux sur le pourtour méditerranéen. Des nuages également à l'ouest des Pays de la Loire à la basse Normandie. Ailleurs, des éclaircies après les brumes du matin. Les températures minimales toujours dégelées sur le Grand Est. L'après-midi, le thermomètre remonte de 4 à 21 degrés des Ardennes au sud-ouest, de 9 à 15 degrés en général. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Jean-Guy Lamège.